Chapitre 28. Le verset 1 nous rapporte que les deux Marie, qui ont assisté à son ensevelissement, se sont rendues au sépulcre tout de suite après la fin du jour du sabbat. Elles sont venues au crépuscule du premier jour de la semaine. Selon la manière juive de compter, la journée s'achevait au coucher du soleil, et le dévouement de ces femmes était tel qu'elles vinrent au sépulcre à peine le sabbat passé. Il est difficile de coordonner les détails fournis par les quatre évangiles pour en faire un récit suivi, mais il semble bien que les deux Marie soient venues seules pour cette visite spéciale et qu'elles soient retournées ensuite avec Salomé et peut-être d'autres, apportant des aromates pour l'embaumer. Marc et Luc nous le précisent, et il semblerait que le verset 5 de notre chapitre se situe lors de cette seconde occasion, de sorte que ce dont il nous est parlé dans les versets 2 à 4 a eu lieu entre les deux visites. Quoi qu'il en soit, il est clair qu'à l'aube du premier jour de la semaine, Christ était ressuscité. Un tremblement de terre a signalé sa mort, et un second tremblement de terre, grand mais très localisé apparemment, car il est lié à la descente du ciel d'un ange du Seigneur, proclame sa résurrection. Les autorités terrestres avaient scellé son sépulcre. Une autorité infiniment plus grande rompt le sceau et roule la pierre. Lorsqu'ils le virent, les gardes se mettent à trembler et deviennent comme morts. Le sépulcre scellé était le défi d'hommes audacieux. Dieu le relève, brise leur puissance et réduit à néant leurs représentants. Le Seigneur Jésus a été ressuscité par la puissance de Dieu et le tombeau a été ouvert pour que les hommes puissent constater sans qu'aucun doute subsiste que le Seigneur n'était pas ici. L'ange ne se contente pas de rouler la pierre, il s'assied dessus, la scellant, pour ainsi dire, de sa présence dans sa position nouvelle, afin que personne ne la déplace avant qu'un grand nombre de témoins aient vu le sépulcre vide. Matthieu nous parle d'un ange assis sur la pierre, Marc d'un ange assis du côté droit, mais à l'intérieur du sépulcre. Luc et Jean mentionnent chacun deux anges. Cependant, tout nous montre que si les femmes furent effrayées par la présence des anges, elles ne furent pas terrassées comme les soldats. Elles cherchaient Jésus le crucifié. Aussi, la parole qui leur est adressée est telle « N'ayez point de peur ». Sa résurrection avait été annoncée, et elles sont invitées à voir le lieu où son corps avait été mis et où, selon le récit de Jean, les linges étaient à terre en ordre, mais le corps n'était plus là. Il suffisait de voir le lieu où il avait été déposé pour être convaincu que le corps n'avait été ni soustrait ni volé. Un acte surnaturel s'était produit, et elles étaient envoyées comme messagères aux disciples pour leur dire d'aller en Galilée où ils le rencontreraient. Bien que partagées entre des sentiments de crainte et de joie, les femmes reçoivent la parole de l'ange avec foi et sortent pour obéir. L'obéissance de la foi est récompensée. Le Seigneur ressuscité lui-même leur apparaît. Elles se jettent à ses pieds et adorent. Puis elles s'en vont comme les messagères du Seigneur et non plus seulement de l'ange. Lors du dernier souper, le Seigneur avait nommé la Galilée comme point de rencontre, et il le leur confirme. Les versets 11 à 15, qui forment une parenthèse, nous offrent un contraste frappant. Nous passons de la scène glorieuse de la résurrection avec la joie, la foi, l'adoration et le témoignage, aux ténèbres épaisses de l'incrédulité, avec la haine, la conspiration, le pot de vin et la corruption, pour en arriver à un mensonge flagrant. Si les gardes dormaient, comment pouvaient-ils savoir ce qui s'était passé? L'argent et l'amour de l'argent sont à la base de ce complot. Les soldats avaient été achetés, et nous pouvons bien penser que c'est ainsi qu'on avait l'intention de persuader le gouverneur aussi. Tout est mis en œuvre pour empêcher que la vérité de la résurrection du Seigneur vienne au jour. Ils réalisaient que cela ruinerait leur cause tout en établissant la sienne, et le diable qui les poussait le savait encore bien mieux qu'eux. Ils n'ont donné que 30 pièces d'argent à Judas pour s'assurer sa mort, mais ils remettent une bonne somme d'argent aux soldats pour étouffer le fait de sa résurrection. L'évangile se termine par la rencontre des disciples avec leur Seigneur ressuscité en Galilée et par la mission dont il les charge. Il n'est pas du tout parlé de nombreuses apparitions à Jérusalem, ni de l'ascension depuis Béthanie. Tout en mentionnant l'établissement de l'assemblée, cet évangile, dans son ensemble, nous a dépeint le passage du royaume présenté dans sa relation avec le Messie sur la terre, tel que les prophètes l'avaient annoncé, au royaume des cieux dans sa forme actuelle, c'est-à-dire une forme mystérieuse pendant que le roi est caché dans les cieux. C'est à Jérusalem qu'il devait recevoir l'Esprit et être baptisé en un corps, l'Assemblée, dans les quelques jours qui suivraient. La Galilée était le district où se trouvait la plus grande partie du résidu pieux d'Israël, ceux qui, en recevant Christ, sont entrés dans le royaume, alors que le peuple dans son ensemble est resté dehors. Ainsi, le Seigneur ressuscité renoue des liens avec ce résidu, dont les 11 disciples étaient les membres principaux, et s'il n'est pas parlé de son élévation dans le ciel, c'est pourtant comme parlant du ciel qu'il leur confie un mandat, car toute autorité lui a été donnée aussi bien dans le ciel que sur la terre. Ce n'était pas encore le moment de révéler pleinement la mission chrétienne, qui consiste à tirer d'entre les nations un peuple pour son nom. Les termes sont plus généraux ici. Il devait aller, faire des disciples et les baptiser. C'est un mandat que le résidu pieux d'Israël pourra reprendre après l'enlèvement de l'Église. Comme Israël a été baptisé pour Moïse, son conducteur, le disciple est baptisé pour le Christ ressuscité, venant ainsi se placer sous son autorité. Et le baptême doit être au nom de Dieu tel qu'il a été pleinement révélé. Ce n'est pas le pluriel, mais le singulier. Non pas « au nom » au pluriel, mais « au nom » au singulier. Car même si elle est révélée en trois personnes, la déité est une. L'évangile se termine par cette promesse. « Voici, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle. » Ainsi, dans cette fin, tout ne revient pas moins de 4 fois. Notre Seigneur exalté détient toute autorité dans les deux sphères, de sorte que rien ne lui échappe. Si ses serviteurs sont frappés par l'adversité, c'est qu'il l'a permis. Leur service doit s'étendre à toutes les nations et non pas se limiter à Israël comme jusqu'à présent. Ceux d'entre les nations qui ont été baptisés doivent être enseignés à garder toutes les choses que le Seigneur a commandées, car les serviteurs doivent d'abord être eux-mêmes caractérisés par l'obéissance pour amener ce qu'ils gagnent à l'obéissance. Enfin, ils peuvent compter sur le support et la présence spirituelle de leur maître tous les jours jusqu'à la fin. Telle est la mission sur laquelle l'Évangile s'achève. En considérant les Actes, puis les Épîtres, nous trouvons des développements qui nous enseignent quelle est la véritable mission évangélique pour nos jours. Mais nous ne perdons pas pour autant la lumière et le bénéfice de ce que le Seigneur dit ici. Nous continuons à aller vers toutes les nations, baptisant pour le nom. Nous sommes toujours appelés à enseigner toute la parole du Seigneur. Il continue d'avoir toute autorité, et quoi qu'il arrive, il sera avec nous tous les jours, jusqu'à la consommation du siècle.